Aujourd'hui, j'aborde le thème du workaholisme, l'addiction au travail. Avec la corrélation de l'addiction au travail et du stress chronique au travail, dont les risques psychosociaux tels que le burn-out, qui dégrade lourdement la santé, il m'est apparu important de rechercher l'origine de cette addiction, dont l'impact négatif grandissant affecte les hommes et les organisations. Mais comment pourrions-nous déterminer l'origine de l'addiction au travail, tandis que ces définitions, bien que proches, ne sont pas unanimes? Nous noterons cependant deux sources majeures identifiées par les chercheurs, que sont les facteurs dispositionnels, d'une part, et situationnels, d'autre part. En psychologie, dispositionnel signifie « interne à la personne », et situationnel, ce qu'il y a à l'extérieur, ce qui de l'extérieur vient impacter. L'addiction au travail est considérée comme un trait de personnalité par certains professionnels de santé. Trait qui caractériserait les personnes d'action, tandis que d'autres présentent l'addiction au travail comme une réponse à des exigences réelles ou perçues de l'environnement social et ou professionnel. La tendance actuelle converge vers une causalité multidimensionnelle, dont les acteurs de santé identifient progressivement les différents facteurs afin de rechercher des moyens de prévenir la surcharge de travail néfaste que les bourreaux de travail réalisent par leur manière de travailler qualifiée d'excessive et de compulsive. Vous l'entendrez dans ce podcast, pour réaliser ce travail de recherche sur le workaholisme, je me suis appuyée sur les travaux de différents psychologues qui, pour moi, ont réalisé un travail important. À commencer par Oates, pasteur et psychologue, qui a pour la première fois utilisé et même inventé ce terme de workaholic en 1968. Des travaux plus récents, les travaux de Machado, Desrumaux et Dawes en 2015, les effets de l'addiction au travail et la dissonance émotionnelle du surinvestissement. Des travaux de Frédéric Chapelle, français, qui a travaillé sur la modélisation des processus d'épuisement professionnel liés aux risques aux facteurs de risques psychosociaux, tels que le burn-out, le bore-out, le stress chronique, etc., etc., en 2016. Et plus récent, 2023, les travaux de Aziz, Meyer, Wench et Dolbier.
Take a break. Le temps libre, le bon temps, améliorerait, modérerait le workaholisme et le stress dans les relations interprofessionnelles. Voilà ce qui a nourri mon étude. Tout d'abord, j'introduirai par « Comme l'alcoolique ne naît pas alcoolique, le workaholic ne naît pas workaholic. » Mais alors, comment devient-on workaholic? Le contexte social et professionnel est certainement un facteur déterminant. Contexte malheureux, ou contexte heureux d'ailleurs. Nous parlons d'alcool mondain pour définir la forme festive de l'alcoolisme, comme nous parlons de bourreau de travail. Mais comment l'alcool peut-il être chic, mondain? Et le bourreau de travail est-il bourreau de son travail ou bourreau de lui-même? Autant de questions que nous soulevons quand nous nous retrouvons seuls face à une addiction dévastatrice dont les conséquences pèsent sur l'addict concerné comme sur son entourage. Bien que l'accro du travail ait été longtemps socialement valorisé, la tendance actuelle considère le travail comme un moyen et non une fin, le sens du travail ayant bien plus de consistance aujourd'hui que sa quantité ou sa rapidité d'exécution. Changement de paradigme dans lequel la mission professionnelle est davantage privilégiée par le travailleur que son salaire. Lorsque nous sommes touchés par les maladies, et finalement victimes de burn-out, révélés ou inavoués d'ailleurs, et dans ce cas fréquemment répété, nous, workaholics, nous nous sentons à la fois coupables honteux et triste de n'avoir pas pu poursuivre notre rythme effréné, comme de n'avoir pas pu arrêter avant de nous plonger aussi profondément dans la faiblesse et la détresse. Nous nous sentons seuls, petits, stupides, alors que nous nous pensions supérieurs, capables de travailler dans des souffrances psychiques et physiques violentes, pour ne pas dire incapables de ralentir, incapables de nous préserver, nous voyons progressivement dépérir, nous sentant aller à notre perte, comme si seule l'implosion pouvait nous arrêter. Là, conscient de notre addiction, des valeurs positives qu'elle représente comme des dégâts qu'elle cause, et conscient que le travail n'est finalement pas le but de la vie, et que nous ne sommes pas forts et puissants comme nous étions persuadés de l'être, mais bien vulnérables et fragiles, dont la détermination sert des objets décalés que le travail a détournés des seuls qui devaient être les cibles. Comme aveuglés, nous n'avions plus les bons objectifs en ligne de mire. Nous avons perdu de vue que l'important réside en nous-mêmes, notre santé, notre famille et notre joie de vivre. Alors nous tentons de retracer l'étiologie de l'addiction au travail afin de nous permettre d'en trouver des solutions d'évitement en amont, ainsi que des actions concrètes de remédiation, qui finalement semblent simples, comme la pratique de la pleine conscience, les activités physiques, les loisirs et les vacances. Mais alors, pourquoi ne nous mettons-nous pas à l'œuvre ? L'habituation aurait-elle un pouvoir indélébile ? Un concours familial, extérieur, est-il nécessaire pour changer nos pratiques et éradiquer notre addiction au travail ? Suffit-il de savoir pourquoi ? Suffit-il de savoir ce qui nous mène à aller vers le travail, aller vers, ou ce qui nous mène à fuir quelque chose et à nous réfugier dans le travail ? Nombreuses sont les questions. Comme je l'évoquais tout à l'heure en préambule, le professeur de psychologie et de religion Oates Wayne aurait inventé ce mot « workaholic » en 1968. Nous avons retrouvé son article « On being a workaholic » écrit dans le journal Pastoral Psychologie de la paroisse de Manassas à New York. Il y avoue, telle une confession, que son addiction au travail lui a procuré un sentiment d'autosuffisance, un sentiment enfantin de toute puissance par ses capacités de bourreau de travail. Parallèlement, il avoue également la tristesse qu'il ressent de devoir se reconnaître addict, comme on peut l'être à l'alcool. Tout son néologisme, mot valise composé des mots travail, work, est aholic, et il utilise les termes de fragilité humaine commune. Plusieurs notions se dégagent dans son texte. Lorsqu'il écrit « Nous sommes idolâtres du travail », parlant de ses homologues bourreaux de travail, il nous renvoie à la notion d'appartenance groupale et par conséquent à la menace identitaire en cas d'écart au stéréotype de ce groupe, en référence au besoin d'appartenance à un groupe. Et ceci renvoie au domaine de la psychologie sociale. Quand il évoque les notes obtenues à l'école, aujourd'hui remplacées par l'argent gagné, nous nous situons dans le domaine du conditionnement, domaine de la psychologie cognitive. Et enfin, lorsque Oates parle de paresseux et bon à rien, ou la fatigue était pour moi un signe de faiblesse, nous nous situons dans les préjugés, le poids sociétal. Parmi les solutions évoquées par Oates, nous noterons: le patient doit se trouver un passe-temps, renvoyant ainsi à une prescription pour cause de pathologie. De même, avec son analyse, les bourreaux de travail changent souvent d'emploi, toujours à la recherche du travail illusoire et parfait. Ou encore, le secret de la guérison et dans le secret de la maladie. Se pourrait-il que la confiance dans le travail, notre propre travail, soit au cœur de la maladie? Ah, la confiance en soi. La maturité est également évoquée avec « Comme l'a dit un homme plus âgé, le secret de la vieillesse est d'avoir quelque chose qui ne va pas chez vous, qui ne vous tuera pas, et de le laisser vous apprendre à vivre selon vos limites. » Pathologie proche de la névrose obsessionnelle évoquée par ces propos, feront appel à une puissance supérieure à eux pour les racheter de l'autodestruction. Vous voyez le niveau. Il va jusqu'à recommander la psychanalyse et cite l'ouvrage « Psychologie et alchimie » de Carl Gustav Jung. Parallèlement, nous assistons discrètement à la mise en responsabilité des établissements professionnels employant des workaholics lorsque Oates dit que face à la maladie, leurs corps ont un meilleur sens qu'eux ou que leurs employeurs. Sous-entendu que les employeurs sensés ont une capacité d'agissement rectificateur. De même, quand il dit « Un homme et sa femme peuvent s'entraider pour surmonter ce qui induit la responsabilité du contexte familial. » En résumé, Oates avance clairement un dysfonctionnel relevant de causes internes, d'une part, de par la forme de son propos qualifié de confession, du rapprochement avec l'addiction à l'alcool, mais aussi des termes qu'il utilise tels que fragilité humaine. Mais il implique également des causes situationnelles, relevant du contexte social, familial et professionnel. La notion d'objectif réaliste, en vue d'un engagement accru mais surtout d'une réussite personnelle, selon Aziz, Meyer, Wench et Dolbier, nous apparaît jouer un rôle important dans le processus du développement du workaholisme. Machado, Desrumaux et Dose citent Castro pour définir l'addiction au travail comme la relation pathologique d'une personne à l'égard de son travail, qui tend à lui consacrer toujours plus d'énergie. Mais dans le cadre de leurs recherches, ils soutiennent également l'idée que l'internal drive, selon Salanova, dont il rappelle la qualification de prédisposition et de trait personnel, avance également qu'il n'est pas seul en cause. Il cite Schmitt, Neubach, Hoyer et Wharton pour avancer que le poids du cumul de charges émotionnelles de la vie privée et professionnelle peut causer un investissement excessif dans le travail, pouvant favoriser l'addiction au travail et un épuisement. Il soulève le poids du travail reconnu par les addicts au travail et relevé dans de nombreuses études par le monde au sein de pays industrialisés tels que le Canada, Burke, le Japon, Ishiyama et Kitayama, la Nouvelle-Zélande, Johnston et Johnston, le Pays-Bas, Taris et associés, la Norvège, Burke et Mathiesen, la Russie, Kakulina, la Turquie, Ersoy Kart, ou encore le Royaume-Uni, Samson. Le Japon est le pays le plus probant. Il a assisté à un phénomène récurrent et violent, la mort par crise cardiaque de cadres sur leur lieu de travail. Aujourd'hui, ce phénomène est reconnu sous le terme universel de karoshi, qui signifie mort par excès de travail. Là aussi, nous retrouvons la notion d'addiction, l'addiction au travail qui tue, par overdose de travail. Frédéric Chapelle fait état de 100 morts par an au Japon en 2016. Il précise que le karoshi concerne des personnes réalisant plus de 60 heures de travail par semaine, avec une charge accrue et brutale de travail où des ennuis professionnels interviendraient dans les 24 heures précédentes. Il va plus loin dans l'exploration des risques psychosociaux au travail chez les Japonais et nous apporte le terme Karoji Tsatsu, utilisé pour définir le suicide en réponse à un processus d'épuisement psychique d'origine professionnelle. Et il nous en indique les raisons. Un temps de travail hebdomadaire long, l'absence de vacances et une charge de travail très importante dans les 6 mois à 1 an avant le suicide. Et il avance la probabilité que les salariés se suicident avant que n'arrive le karoshi, certainement engendré par l'impact de la culture japonaise, de la culture asiatique, avec sa cohorte de règles morales, comme la culpabilité de ne pas être capable de réaliser le travail demandé. Machado et associés en 2015 cautionnent le modèle de Job Demands Resources qui élargit ses points de vue et met en avant que différents types d'exigences et de ressources au travail peuvent interagir et prédire la tension au travail. Ils réalisent une étude dont ils prédisent que l'addiction au travail devrait être positivement corrélée à la latitude décisionnelle, au soutien social et aux récompenses. L'addiction au travail serait une addiction apprise. C'est Porter qui dit ça en 1996. Favorisée par le contexte lié au travail. La matrice de corrélation de la recherche menée par Machado en 2015 indique clairement que l'addiction au travail est positivement corrélée aux demandes psychologiques, aux efforts, au surinvestissement et à la dissonance émotionnelle, et qu'elle est bien négativement associée au soutien et aux récompenses, mais pas avec la latitude. Néanmoins, il souligne plusieurs limites présentes dans leur étude. Sa transversalité ne permet pas de conclure sur la causalité des relations et sur l'évolution des inducteurs. Frédéric Chapelle nous rapporte que Taris et Schofeli considèrent qu'il y a une dimension comportementale intégrant le besoin d'effectuer un nombre d'heures important de travail et une dimension psychologique, l'obsession de travailler, qu'il semble que les workaholics n'aiment pas tant leur travail que le fait de travailler par lui-même. Notons qu'il utilise le mot « besoin » dans un premier temps, qui nous renvoie à la pathologie comportementale du besoin irrationnel de travail jusqu'à en mourir. Puis du verbe « aimer » dans un second temps, qui là nous renvoie à une dimension affective, plaisante, choisie même, volontaire, pathologique ou pas. Mais il poursuit et reprend les critères addictifs du workaholic que Griffiths soutient. Comparativement aux addictions classiques reconnues, prépondérance du travail, changement d'humeur, accoutumance, symptômes de sevrage en cas d'impossibilité de travailler, conflit avec les autres ou avec lui-même, rechute s'il avait amélioré sa dépendance au travail. À l'instar de ses confrères, il avance que les facteurs favorisant l'addiction au travail semblent essentiellement personnels. Nous revenons là à la dimension dispositionnelle, interne en fait, personnelle. Et ajoute qu'il faut tenir compte des facteurs organisationnels qui peuvent venir renforcer ces comportements, comme les récompenses ou le fait de favoriser les heures supplémentaires. Nous nous retrouverons enfin là dans la dimension situationnelle, externe. Par contre, nouveaux éléments. Frédéric Chapelle nous donne une variance au sein de la population des accros du travail et nous précise que les workaholics non enthousiastes auraient plus de troubles concernant leur santé que les workaholics enthousiastes. Aziz, Meyer, Wench et Dolbier affirment l'impact négatif des effets produits par le bourreau de travail sur sa santé mentale, physique et social. Il précise que son appétence néfaste aux longues heures de travail, plutôt qu'aux loisirs, lui impose des exigences excessives et de grandes difficultés à se désengager du travail lorsqu'il ne travaille pas. Le workaholic se retrouve donc quasiment sans cesse au travail, qu'il soit professionnel ou ménager, en cuisine comme au jardin ou à l'atelier. Sans aide extérieure, l'issue de ce mode de fonctionnement ne peut se résoudre qu'à l'épuisement professionnel. Processus défini par Herbert Freudenberger à partir de 1971 pour expliquer la démotivation de jeunes bénévoles qui s'impliquaient dans un centre de désintoxication avec un engagement excessif, une charge importante de travail, un besoin de reconnaissance et de gratitude et une incapacité à atteindre les buts espérés. Il nomma ce syndrome le burn-out. L'addiction au travail serait engendrée par des inquiétudes au travail qui lui donneraient trop de place. Et cette addiction les mènerait à l'épuisement professionnel inéluctable, qui peut relever de l'ordre physique, et ou psychique, et ou émotionnel, et ou compassionnel. Concernant ce dernier point, Frédéric Chapelle nous rapporte le constat de soignants de traumatisés, qui auraient été victimes d'un épuisement compassionnel, en proie à leur empathie, et dont l'arrêt de l'exposition au traumatisme leur permettrait de revenir à un niveau émotionnel normal, comme s'ils rechargeaient leur batterie d'émotions positives, avant d'utiliser à nouveau leur empathie à fin professionnelle. L'addiction au travail n'est ni reconnue comme addiction, ni comme maladie professionnelle d'ailleurs. Pourtant, l'Institut de veille sanitaire retient que près de 30 000 personnes en France souffriraient d'épuisement professionnel de type burn-out, comme le souligne Frédéric Chapelle dans son article de 2016. Si les loisirs et les vacances semblent être la solution, avancée de manière unanime, comme le précise tout récemment Aziz et Associés en 2023, cette solution n'en demeure pas moins difficile, puisque les addicts du travail peinent à s'en dégager, ce qui entrave leur capacité à s'engager dans des processus de rétablissement. L'impossibilité de pouvoir répondre à leur dépendance au travail serait aussi responsable de dépression et de problèmes de santé. Parmi les solutions mises en avant, telles que les loisirs et les vacances, le modèle de détachement, récupération, autonomie, maîtrise, sens et affiliation conceptualise la valeur des ressources individuelles et la manière dont celles-ci peuvent être obtenues, entretenues et réinvesties dans le travail. Lorsque les exigences du travail sont élevées, les travailleurs doivent investir des ressources supplémentaires pour éviter de subir des tensions au travail, comme l'épuisement émotionnel. Comme supposé, l'étude analysée par Aziz et Associés révèle que le bourreau de travail et le stress au travail sont positivement liés et en parallèle, le bourreau de travail et le stress au travail sont négativement liés à la participation aux loisirs. Outre loisirs et vacances, Aziz et Associés préconisent la pratique de la pleine conscience et suggèrent des ateliers en entreprise pour permettre la relaxation des personnels en leur apprenant des techniques spécifiques qui facilitent la récupération. Pour conclure, l'addiction au travail n'est toujours pas reconnue maladie professionnelle. Mais sommes-nous capables d'identifier les causes de cette addiction, qui n'en est pas une? Il est clair aujourd'hui que les causes du workaholisme sont multiples. Il fait consensus qu'elles relèvent à la fois de dispositions internes du sujet comme de dispositions situationnelles. L'aspect multidimensionnel de ce comportement présente l'avantage de responsabiliser la famille, l'entreprise, la société, mais la complexité de son traitement réside justement dans ce même fait. Le sujet ne peut être traité que dans son individualité. Nous sommes passés de l'ère du carriérisme à l'ère du sens, et nous sommes face à des cas de burn-out, comme ceux de bore-out, nous pouvons noter dans ce parallèle l'importance du travail et pourrions être tentés d'accorder davantage de poids à cette cause situationnelle, plus saillante que dispositionnelle. Ne perdons pas de vue le poids de la famille et de la société, source de sentiments divers, tels que la légitimité, tels que le besoin de reconnaissance, de sécurité, d'argent, de statut, de valeur, pour lesquels confiance en soi et estime de soi devraient être travaillées dès le plus jeune âge. Et dont l'éducation nationale pourrait avoir aussi un rôle. À titre personnel, nous pouvons nous poser la question, chacun, est-ce que ma relation au travail est saine ? Est-ce que cette relation est bien dosée ? Est-ce que je ne m'oublie pas ? Prenez le temps et l'espace pour vous interroger. Si le questionnement vous semble difficile, ou même inutile, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel qui pourra vous aider à y voir clair et à conforter votre position ou à la modifier. À bientôt !